France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
Comment définir le rêve alors qu'il n'existe qu'à travers les récits qu'on en fait? C'est la question que pose l'exposition intitulée « Le temps d'un rêve » au musée des Confluences de Lyon, à découvrir jusqu'au 24 août prochain. Pour ce faire, l'exposition retrace un voyage de l'Antiquité à nos jours et sur différents continents, à travers l'art ou la psychanalyse. Alors ce soir, c'est la compréhension scientifique de notre vie onirique qui nous intéresse. Qu'est-ce que les neurosciences nous permettent de comprendre, de mieux comprendre au sujet de nos rêves et de la façon dont ils sont fabriqués, ainsi que leurs fonctions? Alors pour tenter d'y voir plus clair, je reçois ce soir Perrine Ruby. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse INSERM en neurosciences cognitives au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Vous êtes l'une des expertes scientifiques de cette exposition « Le temps d'un rêve » au Musée des Confluences à Lyon. Et vous êtes l'autrice de cet ouvrage intitulé « Rêver pendant le confinement » qui a paru aux éditions EDP Sciences. C'était en 2021. Merci à vous d'être présente ce soir dans « Questions du soir ».
Le rêve, en tout cas le rêve auquel je m'intéresse moi, c'est le processus nocturne.
Le rêve, c'est une production psychique de l'esprit pendant le sommeil et en général associée à des images.
C'est les impressions qu'on a en tête parfois le matin au réveil.
C'est ce dont on se souvient au réveil et quelquefois ce qu'on oublie aussi, ce qu'on raconte aux autres aussi, des récits bizarres.
C'est quelque chose de décousu, de complètement chaotique.
C'est un processus cognitif qui nous permet d'en apprendre sur nous-mêmes.
Chaque nuit, on bâtit des mondes et on devient presque un peu tous artistes.
C'est le lieu de la pensée, le rêve.
Extrait du podcast créé par le Musée des Confluences, pour le Musée des Confluences, dans le cadre de cette exposition, Perrine Ruby, et ils mettent en lumière, c'est vrai, la difficulté que l'on a parfois à définir ce qu'est véritablement le rêve, d'autant plus que cette définition a évolué au cours du temps. Alors remontons pas à pas cette histoire avec vous. Qu'est-ce que c'était le rêve avant le grand moment freudien ?
D'abord, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup intéressé les humains, aussi loin qu'on puisse regarder. Les historiens ont toujours vu des humains qui s'intéressaient aux rêves. Donc ça, c'est une chose, je trouve, très importante à avoir en tête. Et pour cette question, en fait, l'accès qu'on a aux rêves, c'est effectivement par cette impression qui est très subjective, qui est très descriptive. C'est ces représentations qu'on a en tête certaines fois le matin. Et du coup, c'est à partir de là qu'on est intrigué, c'est à partir de là qu'on s'interroge, et c'est ça qu'on aimerait mieux comprendre. Du coup, à travers le temps et l'espace, les humains se sont emparés de cette affaire-là de différentes manières pour essayer à la fois de mieux comprendre, à la fois d'en faire quelque chose, de le rendre moins effrayant. Et du coup, en recherche, on essaye effectivement de répondre à ces questions qui ont l'air simples, mais pour lesquelles c'est pas toujours facile de trouver des réponses. Et c'est finalement d'où viennent ces représentations, pourquoi elles sont là, et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'elles veulent dire.
Alors justement, parmi ces représentations, hein, remontons le cours de des façons que nous avons eues de voir, de percevoir le rêve. Avant le moment freudien, il y avait deux grandes façons, si je caricature, hein. Il y avait évidemment la façon dont les dieux pouvaient s'exprimer à travers nos rêves. Et puis il y avait aussi les rêves perçus comme façon de lire, de décrypter, de prédire l'avenir. Qu'est-ce qu'on apprend de ces deux façons de lire les rêves ?
Moi, ça me donne l'impression que c'est de tout temps. En fait, il faut s'imaginer une absence de cadre théorique qui nous permette de comprendre ces représentations oniriques. En fait, c'est très bizarre, c'est très étonnant de se réveiller avec des espèces de souvenirs de quelque chose qu'on n'est pas sûr d'avoir vécu, qui peut paraître certaines fois effrayant. Et du coup, à travers les différentes époques et les différentes sociétés, ces différentes façons d'envisager le rêve, pour moi, c'est des manières de le mettre dans un cadre pour pouvoir le comprendre et peut-être pour pouvoir s'en... Alors, mettre un peu de distance ne pas en être autant effrayé que ce qu'on peut l'être certaines fois en se réveillant le matin.
Qu'est-ce que raconte le grand moment, le grand tournant freudien ? Est-ce que, dans le fond, le rêve devient une information sur le rêveur bien plus que sur l'avenir ou sur le monde ?
Dans tous les cas, on a affaire à une tentative de, une fois de plus, de compréhension, de savoir comment appréhender, quoi faire de cette information onirique. Et ce qui est de très intéressant avec l'intervention de Freud, c'est le fait qu'il a fait rentrer ses représentations, cet objet, ces représentations bizarres qu'on a en tête le matin, dans le champ de la recherche scientifique. Il en a fait un objet digne d'intérêt d'un point de vue scientifique. C'est ça qui a vraiment changé à partir de ses travaux. Et du coup, à partir de là, on a pu essayer de l'observer de manière plus systématique, voir ce qui était commun à tous. Une organisation qui se reproduisait à travers le temps et l'espace. Donc, ça a été les prémices d'une étude scientifique, ce qui peut paraître étonnant, puisqu'il y a effectivement beaucoup eu d'opposition entre science et psychanalyse. Mais c'est vraiment un moment important pour la recherche sur le rêve, que Freud ait transformé le rêve en à la fois quelque chose d'important d'un point de vue psychique et à la fois quelque chose qui était digne d'intérêt, digne d'une recherche scientifique.
Si je fais un bond dans l'histoire, racontez-nous, Perrine Ruby, l'histoire justement d'une rupture, plutôt d'une fausse rupture au tournant des années 50, 60, même au milieu des années 60, lorsqu'on s'imagine que les rêves sont le précaré du sommeil paradoxal. Ce serait dans ce sommeil paradoxal que se déplierait, se déroulerait nos rêves. Pourquoi d'abord avons-nous eu cette idée à ce moment-là et pourquoi cette idée s'est-elle avérée fausse ?
Alors, du coup, effectivement, la recherche scientifique sur le rêve, elle a commencé à la fin du 19e, et du coup, on a été obligé de faire avec ce à quoi on avait accès, c'est-à-dire les récits de rêve. Du coup, il y a eu beaucoup de recherches expérimentales qui a essayé de comprendre, en fait, de quoi les récits de rêve étaient faits, comment ils étaient organisés, ce qui revenait, qui était systématique à travers les gens et le temps, par exemple les bizarreries, par exemple le fait qu'on rêve beaucoup de choses qu'on a vécues, même si elles sont fragmentées, que le rêve est souvent émotionnel, qu'on est souvent convaincu que ça se passe pour de vrai, qu'il peut y avoir des émotions très fortes, et qu'évidemment, on peut vivre ces bizarreries sans qu'elles nous semblent bizarres pendant l'expérience rêvée. Donc, il y a eu de la recherche expérimentale qui a pu mettre... établir ces caractéristiques du contenu du rêve. Donc ça, c'était toute la première moitié du XXe siècle et qui a été enclenchée par cette pensée scientifique initiée par Freud. Et puis, il y a la recherche sur sommeil, effectivement, qui s'est emparée du sujet à la fin des années 50, puisque à la fin des années 50, il y a la découverte par des Américains d'un nouveau stade de sommeil qu'ils ont appelé sommeil à mouvement rapide des yeux. Mmh. En France, il a été appelé sommeil paradoxal par Michel Jouvet. Et du coup, ce stade de sommeil, il était extrêmement particulier. Il avait des caractéristiques très particulières par rapport aux autres stades de sommeil qu'on connaissait jusque-là. Et du coup, les chercheurs se sont dit, ce stade de sommeil bizarre, est-ce qu'il ne serait pas en lien avec autre chose de bizarre qui se passe pendant le sommeil, c'est-à-dire nos rêves? Donc, ils ont réveillé des personnes qui dormaient en sommeil paradoxal et ces mêmes personnes qui dormaient en sommeil lent, pour essayer de voir s'il y avait un lien entre le stade de sommeil et le souvenir de rêve. À l'époque, ils ont trouvé qu'il y avait plus de souvenirs de rêve au réveil du sommeil paradoxal qu'au réveil du sommeil lent, avec un gros écart. Il y avait 7% de souvenirs de rêve au réveil du sommeil lent contre 80% de souvenirs de rêve au réveil du sommeil paradoxal. Donc à l'époque, ils ont fait une simplification, ils ont dit c'est en sommeil paradoxal qu'on se souvient de ses rêves. Mais d'autres études ultérieurement ont montré que en fait ce ratio était pas représentatif et que en fait quand beaucoup d'autres études ont été faites ultérieurement, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup moins de différence que ce qui avait été dit initialement. Et du coup, on peut se souvenir de ses rêves dans tous les stades de sommeil. Et c'est pas tant une affaire de stade de sommeil qu'une affaire de moment de la nuit. En fait, on se souvient moins bien de ses rêves au début de la nuit et on s'en souvient mieux à la fin de la nuit, quel que soit le stade de sommeil.
Est-ce que c'est possible, est-ce qu'il est possible, Perrine Ruby, de ne pas rêver? Est-ce que ça existe chez certaines personnes, pour certaines personnes, cette absence totale de rêve?
Alors, le gros problème qu'on a dans la recherche sur le rêve, c'est qu'on a accès uniquement au souvenir du rêve et non pas à l'expérience du rêve. Donc ça, c'est très limitant. Et puis, l'autre problème qu'on a, c'est que quand on ne se souvient de rien le matin au réveil, on n'est pas dans la mesure de dire si on a oublié le rêve, donc on a fait un rêve qu'on a oublié, ou s'il n'y a pas de rêve qui a été produit. Donc on n'est pas en mesure de faire la distinction entre ces deux situations. Du coup, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des personnes qui se souviennent très rarement de leurs rêves, quasiment jamais, et ça, ça n'a pas été associé à des différences cognitives avec les personnes qui se souviennent de leurs rêves, par exemple. Il y a des différences de traits de personnalité. Ça, c'est assez remarquable.
Je voudrais vous faire entendre, Perrine Ruby, l'extrait d'un film bien connu intitulé La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock.
Notre patient consent à nous raconter son rêve de la nuit dernière.
Oh, très bien. Je vais chercher mes lunettes pour prendre des notes.
Donc, c'est ici que le rêve intervient. Il relate les faits qu'on essaie de tenir secrets. Mais ce qu'il raconte est tout emmêlé comme les pièces d'un puzzle sortant de la boîte. Le problème qui se pose à l'analyste est d'examiner le puzzle, de remettre les pièces dérangées à leur vraie place et de démêler dans cet imbroglio l'intention réelle qu'il signifiait.
Voyons, je pensais tout en rêvant que le vrai sens du rêve m'échappait. Que les éléments clés manquaient pour que j'en comprenne le sens.
Nous allons le comprendre.
Il y a la question, Perrine Ruby, du sens du rêve. Et évidemment, c'est une question obsédante. Il y a aussi la question de sa fonction. À quoi ça sert de rêver? À quoi ça nous sert concrètement de rêver?
Alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été proposées. La plupart sont très difficiles à tester. Mais dans les hypothèses qui sont les plus représentées dans la recherche actuellement, il y a celle qui propose un rôle du rêve dans... Ça serait une sorte de simulateur, donc qui nous permettrait de faire pour de faux au cours de notre sommeil pour améliorer nos performances à l'éveil, que ce soit pour combattre des ennemis ou pour interagir socialement avec avec nos congénères. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été proposée. C'est du coup, ça serait un rôle de simulation. Et puis, il y a des hypothèses qui ont été proposées qui sont en lien avec les fonctions du sommeil. Du coup, on sait que le sommeil joue un rôle dans la consolidation de la mémoire. Du coup, comme le rêve se passe pendant le sommeil, il y a des collègues qui ont proposé que le rêve jouerait un rôle dans la consolidation de la mémoire. Il n'y a pas beaucoup d'arguments expérimentaux qui sont en faveur de cette hypothèse. Et puis, la dernière hypothèse qui me semble, moi, la plus crédible, c'est celle qui propose un rôle du sommeil et du rêve dans la régulation des émotions. Mmh. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré un rôle du sommeil dans la régulation des émotions. Et il commence à y avoir un certain nombre d'arguments qui montrent un lien entre rêve et régulation émotionnelle. On a notamment montré au laboratoire que la version rêvée d'un souvenir avait une intensité émotionnelle diminuée par rapport à la version vécue de la même expérience. Donc ça va très bien avec l'idée que, en fait, en dormant et en rêvant, on garderait le souvenir en atténuant, en diminuant l'intensité émotionnelle qui est associée. Du coup, on pourrait rappeler le souvenir sans que ce soit plus impactant émotionnellement.
Comment est-ce que, comme dans le film d'ailleurs que l'on vient d'entendre, comment est-ce que les sciences cognitives parviennent à expliquer que le rêve, nos rêves, recomposent très largement le réel, hein. Souvent, nos souvenirs sont morcelés, les images se mélangent entre elles, les personnages n'habitent pas les bons corps, on ne reconnaît pas les mêmes symboles. Comment est-ce qu'on l'explique, ça, cette recomposition du réel? Est-ce que ça a une fonction supplémentaire?
Oui, c'est ce que j'aime bien dans cette hypothèse d'un rôle du rêve dans la régulation émotionnelle, c'est que contrairement aux autres hypothèses, elle permet d'expliquer toutes les caractéristiques du rêve, et notamment celle que vous venez de proposer. C'est en fait, on peut imaginer le rêve comme une espèce de machine à produire des émotions, où tout serait permis pour produire des émotions à partir de nos souvenirs, mais ça serait une production d'émotions qui aurait en quelque sorte une vocation à modifier la perspective. soit nous faire évacuer l'émotion, soit nous la faire voir de manière différente pour pouvoir prendre du recul, soit aussi le rêve pourrait provoquer des émotions compensatrices. Quand on a un vécu très négatif à l'éveil, le rêve pourrait faire des rêves très positifs qui permettraient de, en quelque sorte, rééquilibrer la balance émotionnelle. Et du coup, cette caractéristique forte des rêves, effectivement, qui est de convoquer des souvenirs de la vie éveillée, mais qui sont très souvent modifiés et morcelés et mélangés, ça serait un des processus qui permettrait de pouvoir à la fois évoquer une émotion et l'atténuer, puisque en fait le souvenir serait dans un autre contexte, il ne serait pas entier, il serait associé à d'autres représentations, donc ça permettrait de le mettre à distance.
Il faut qu'on parle évidemment des rêves que l'on aime moins, et je pense aux cauchemars. Est-ce que ces cauchemars ont une fonction spécifique, une fonction singulière, distincte des autres rêves ?
Alors, dans le modèle neurocognitif du cauchemar qui a été proposé par des collègues canadiens en 2007, en fait, il propose cette idée que le rêve joue un rôle dans la régulation des émotions en atténuant l'intensité émotionnelle associée au souvenir. Et dans le cadre de ce modèle-là, il propose que le cauchemar soit le signe d'un échec du processus. Donc, quand le processus de régulation qui se passe pendant le sommeil et les rêves ne marche pas comme prévu, ne fonctionne pas, le résultat, c'est un cauchemar. Ce qui va assez bien avec le fait que, en fait, les cauchemars chez les personnes adultes en bonne santé sont très rares. En fait, dans les études qui ont été faites, on fait moins d'un cauchemar par mois dans la population générale, chez les personnes en bonne santé. Et il y a très peu de personnes qui font des cauchemars fréquents. C'est entre 1 et 5% de la population générale qui souffre de cauchemars fréquents, c'est-à-dire au moins une fois par semaine.
Je voulais qu'on évoque également, Perrine Ruby, les mécanismes psychologiques à l'œuvre pendant le sommeil et notamment dans ces moments où le rêve s'exprime. Dans le podcast auquel vous avez participé, le podcast créé pour le Musée des Confluences, vous établissez trois mécanismes, la catharsis, la transformation, la compensation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quels sont ces mécanismes ?
Oui, alors ça, c'est du coup, c'est les hypothèses que j'ai pu formuler à l'issue de l'enquête qu'on a réalisée en France au cours du premier confinement de 2020. Du coup, il y a des Françaises et des Français de toute la France qui ont envoyé leurs rêves. On a, dans le temps du confinement, obtenu plus de 3000 réponses. Mmh. Et l'étude de ces réponses et la lecture des récits de rêves ont montré ces trois catégories vraiment de rêves qui sont remarquables. Des rêves qui sont très négatifs et qui expriment une crainte littérale de l'éveil. Du coup, là, c'était facile à identifier puisque on partageait tous le même vécu, l'angoisse de cette pandémie, la maladie et la mort qui étaient partout. Donc, il y avait beaucoup de rêves qui exprimaient cette crainte-là, soit de manière littérale, soit de manière métaphorique. Donc, le rêve pourrait, pour réguler les émotions, en fait, les exprimer. Les exprimer, ça serait comme les évacuer. Et puis, d'autres rêves qu'on a beaucoup vus, c'était des rêves qui étaient métaphoriques. C'est vraiment la grande force et la grande caractéristique du rêve, c'est de représenter nos émotions de manière différente, de manière symbolique. Du coup, la pandémie, elle a été volontiers représentée par des attaques de vampires ou des attaques d'extraterrestres. Le débordement émotionnel qui pouvait être vécu à ce moment-là, ça pouvait être représenté par des vagues qui vous submergent dans les rêves. Donc, cette représentation symbolique des émotions dans le rêve, c'est une transformation qui, comme je le disais précédemment, pourrait participer au fait de voir les choses autrement, intégrer, comprendre, voir différemment l'émotion, ce qui permettrait de prendre de la distance, et du coup, ça serait un mécanisme de régulation. Et puis, le dernier phénomène qu'on a observé avec grand étonnement, on s'y attendait pas, on s'attendait à ce que les gens rapportent des rêves plus négatifs que d'habitude pendant cette période-là. Et puis, on a constaté qu'il y avait aussi des personnes qui avaient constaté qu'ils avaient des rêves plus positifs que d'habitude au cours du premier confinement. Donc ça a été très étonnant. Et on a constaté que ces rêves positifs, ils pouvaient être Le rêve a plusieurs cordes à son arc pour faire des rêves positifs. Il y a eu beaucoup de rêves érotiques, mais il y avait aussi simplement des rêves de réalisation de désir de tout ce qu'on ne pouvait pas faire à ce moment-là, c'est-à-dire faire des fêtes, voir ses proches, faire des voyages, courir dehors. Il y a eu beaucoup de rêves qui représentaient ça, et puis des rêves qui étaient plus... avec une intensité encore plus forte et plus symbolique, où simplement le monde était sauvé. Il n'y avait plus de maladies, on n'avait plus de problèmes d'énergie. Donc des rêves qui avaient une intensité positive très forte, aussi forte que l'intensité négative des cauchemars. Et du coup, ça, vraisemblablement, on peut le voir comme un mécanisme du coup, qui permettrait de rééquilibrer en fait, un petit peu notre état émotionnel en créant du positif quand on a vécu trop de négatif. Et c'est assez cohérent avec des études qui ont montré que chez des enfants qui vivent dans un contexte, dans un pays en guerre, en fait, ceux qui ont des rêves très positifs souffrent moins de stress post-traumatique que les autres.
Alors à ce propos, je voudrais justement vous faire entendre la voix de Johan Chapoutot, l'historien, professeur à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste du nazisme. Il était l'invité en 2017 de la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin et il évoque ce travail qui a été mené par Charlotte Bérat justement sur les rêves qui ont été commis sous le régime nazi.
On a une forme de rapport de synthèse sur l'inconscient, la psyché des Allemands, telle que perçue et notée par une psychanalyste qui accueille des patients et qui recueille leurs rêves. Et c'est très intéressant de voir que ces rêves-là sont envahis par la réalité de ce qu'est le nazisme depuis 1933, de telle sorte que on peut même faire mentir un nazi en lui montrant qu'il était au fond assez peu ambitieux. Il s'agit de Robert Ley, le chef du service du travail, qui avait dit « nous allons dominer l'espace mental de telle manière qu'il ne restera plus comme moment de liberté que le sommeil aux Allemands ». Et là, on se rend compte que le sommeil lui-même n'est plus un moment de liberté, dans la mesure où, Charlotte Bérat le montre dans ses notes, la psyché nazie envahit la psyché des Allemands. Ils en rêvent la nuit.
Comme ce travail a été réalisé sous le régime nazi, Perrine Ruby, comme vous l'avez mené aussi il y a 5 ans, à propos du premier confinement pendant la crise sanitaire, qu'est-ce que les rêves peuvent quand même nous apprendre, nous dire sur les angoisses collectives, les états d'âme qui traversent une société? Est-ce qu'ils sont une bonne façon de les lire et de les appréhender?
Oui, ce qui est très intéressant dans le rêve, c'est que en fait, c'est vraiment une expression de nos émotions, mais c'est une expression de nos émotions qui est différente de l'éveil, puisque en fait, c'est dans un contexte où on n'a plus de censure, plus de morale, plus de normes sociales. Donc, c'est le fonctionnement du cerveau et de la psyché pendant le sommeil, donc évacue cette question de la censure. Du coup, on a accès directement à ce qui cause nos émotions les plus fortes, ce qui nous préoccupe le plus. Du coup, ça nous permet d'avoir sans filtre en fait le fonctionnement de notre société et ses dysfonctionnements et ce qui crée les émotions fortes et extrêmement négatives. C'est pour ça que ce travail de Charlotte Bérat de recueil de rêves entre 33 et 39 en Allemagne a été tout à fait passionnant. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée et une des raisons pour laquelle j'ai souhaité rapporter les rêves récoltés en 2020 dans un livre, c'est que j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de points communs entre les rêves du coup que j'ai lus des Françaises et des Français en 2020 et ceux qui ont été rapportés par les Allemands entre 33 et 39. Et notamment, les points communs, ils font un petit peu froid dans le dos, c'était beaucoup de totalitarisme, d'humiliation, de violence arbitraire, la notion d'intrusion dans l'intimité, la passivité et la soumission. Toutes ces caractéristiques-là étaient très présentes dans les deux cas. Et du coup, ça fait un petit peu froid dans le dos, puisque, en fait, une autre observation qui était tout à fait troublante, c'était de voir que, juste à la fin du confinement, et puis depuis, en fait, l'arrêt du confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été rêvées, qui sont réalisées. Et du coup, au-delà de poser la question de la capacité prémonitoire des rêves à nous parler de l'avenir, en fait, ça pose la question de, en fait, est-ce que le cerveau endormi, du coup, en filtrant l'émotion pure, n'arrive pas à voir des choses que simplement la psyché éveillée n'arrive pas à voir. Et finalement, les rêves auraient cette capacité à nous révéler des choses qu'on n'arrive pas vraiment à voir à l'éveil et finalement de nous révéler ce que l'avenir nous réserve et qui est en gestation.
Merci beaucoup Perrine Ruby de ces éclairages. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'INSERM en neurosciences cognitives au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Vous êtes l'une des expertes scientifiques de l'exposition intitulée « Le temps d'un rêve », une exposition à découvrir jusqu'au 24 août 2025 au Musée des Confluences à Lyon. Et vous êtes l'autrice de cet ouvrage que l'on vient de mentionner, qui apparaît aux éditions EDP Sciences en 2021 et intitulé « Rêver pendant le confinement ». Merci à vous d'être venu ce soir dans Question du soir.